Jeudi 7 mai 1925.
C'est le moment de plier bagages et de redescendre.
Annonce Jean-Claude alors que le jour se lève. Nous venons de passer deux journées interminables et pénibles confinées dans la tente, ainsi que deux longues nuits sans sommeil dans le froid et l'humidité du camp 3. Je porte les mains à mon visage, dont se détachent des lambeaux de peau en songeant « Il est peut-être déjà trop tard ». Nous n'avons pas de miroir dans nos affaires personnelles.
Dites-le-moi sans détour, Jean-Claude. C'est la lèpre. Des coups de soleil, me répond-il. Vous êtes salement amoché. Vous perdez des bandes de peau rouges et blanches, mais la chair en dessous et vos lèvres sont presque bleues. Cyanosé, je pense, à cause du manque d'oxygène.
Rouge, blanc et bleu, dis-je. Dieu bénisse l'Amérique.
Où vive la France ?
Dit Jean-Claude, mais il ne rit pas. Mon ami aussi a les lèvres, le visage et les mains légèrement bleutées, tout comme trois de nos sherpas. Seul Babou semble épargné. Hier, en guise de petit déjeuner et de dîner tout à la fois, j'ai essayé de sucer un morceau congelé d'une conserve de pommes de terre et de petits pois. Il avait un goût d'essence, comme tout ce que les sherpas ont apporté dans leur chargement. Je me suis précipité dehors à quatre pattes pour vomir une fois encore et n'ai plus essayé d'avaler quoi que ce soit depuis. Nous avons réussi à dégeler suffisamment la boîte de pêche pour que chacun de nous six puisse profiter d'une petite gorgée glaciale de sirop. Le fait d'en avoir si peu était presque pire que de ne rien avoir à boire du tout. Je meurs de froid. La première nuit, JC et moi avons cru que les Sherpas pourraient partager leurs deux sacs de couchage. Conçus pour des morphologies d'hommes européens plus corpulents qu'eux, mais ils n'ont pas réussi. Ces sacs sont cousus comme des cocons, sans boutons ni fermeture à glissière. On ne peut pas les ouvrir pour s'en servir de couverture. Cette première nuit, Hank Shiri et Lakpa Yishei ont donc dû tenter de dormir dans leurs seuls vêtements de laine. Les Sherpas avaient préféré ne pas mettre la tenue de Bimardum que nous avions enfilée pour grimper, JC et moi, et retiré lors de la première journée chaude dans l'auge et sur le glacier. Résultat, les deux hommes ont eu les orteils et les pieds gelés. Norbu Shedi, le Sherpa anglophone de JC, a eu tant de mal à respirer les deux nuits qu'il a préféré dormir avec le visage hors du sac, d'où les plaques blanches de gelure sur ses joues. La nuit dernière, Jean-Claude et moi avons prêté nos parkas et nos pantalons en duvet d'oie à Hank Shiri et Lakpa Yishei, si bien que je n'ai pas fermé l'œil. Sous le costume de bonhomme Michelin, je ne portais qu'une tenue d'alpiniste à l'ancienne, veste Norfolk en laine, pull, knickers et grosses chaussettes, et le sac de couchage en duvet ne suffisait pas à me tenir chaud. Chaque fois que je commençais à somnoler, j'étais brusquement réveillé par le froid intense ou la sensation que quelqu'un m'étranglait. Ou les deux. Je me sens mieux maintenant que je bouge pour enfiler mes bottes et ranger les mocassins montant en feutre au fond de mon sac à dos vide. Mais chaque mouvement consomme mon énergie et m'oblige à m'arrêter le temps de reprendre mon souffle. Je me rends compte que Jean-Claude doit s'interrompre de la même manière et qu'il peine à nouer ses lacets gelés. Les Sherpas se meuvent encore plus doucement et pesamment que nous. Enfin, nous avons terminé nos sacs, enfilé nos bottes, nos crampons et nos différentes épaisseurs de vêtements. Jean-Claude et moi avons récupéré nos parkas pour la descente. Quand mon ami annonce
« Il faut aussi ranger la tente, les piquets et la bâche de sol. »
Les Sherpas se décomposent et je grommelle d'un ton plaintif
« Pourquoi ?»
La tente expérimentale de Reggie a certes survécu à deux jours et deux nuits de tempête, mais elle est sacrément lourde. Je n'en ai porté qu'une partie à l'aller, et le poids m'a paru accablant. À présent, il importe avant tout de redescendre vite au camp 2 ou plus bas. « Laissons donc cette foutue tente ici pour la prochaine équipe de tigres, » me dis-je in petto.
« On en aura peut-être besoin si on doit s'abriter sur le glacier, » explique Jean-Claude.
Je réprime mon désir de râler encore une fois. L'idée de bivouaquer sur le glacier ouvert à tous les vents m'épouvante. Mais si nous y sommes contraints pour une raison ou pour une autre, comprenant que JC a raison, je m'adresse à nos deux interprètes.
Bien, vous avez entendu. Baborita et Hank Shiri, commencez à retirer les arceaux. Norbu et Lakpa, sortez récupérer tous les piquets et défaites toutes les attaches. Ne les coupez pas, sauf si vous y êtes obligé, et dans ce cas, coupez tout près du nœud et laissez toutes les cordes attachées.
Si nous devons planter cette tente sur le glacier, je doute que nous ayons l'énergie de fixer de nouvelles cordes. Et on ne pourra pas compter sur les blocs rocheux qu'il y a là-bas. C'est étrange de se retrouver dehors, lesté de son paquetage. Les vents ne se sont pas calmés, et le blizzard souffle aussi fort que ces deux derniers jours, mais l'appareil de JC, qui fait thermomètre et baromètre anéroïde, nous apprend que la basse pression augmente en même temps que la température, qui s'est adoucie puisqu'il ne fait plus que moins 12 degrés Celsius.
« C'est bon pour les crampons sur la neige du glacier !»
me dit JC à l'oreille sous les assauts bruyants du vent. Rien n'est bon. Le glacier est recouvert d'une couche de neige d'environ 60 cm, et non pas d'un mètre ou plus comme nous le craignons, JC et moi, après 3 jours de tempête. Mais la croûte n'est pas assez solide, si bien que tous les 10 pas, l'un de nous s'enfonce jusqu'au genou, voire jusqu'à la taille. Nous descendons le glacier comme 6 aveugles atteints de la maladie de Parkinson. Nous avons décidé de nous encorder tous ensemble en utilisant la corde miracle hors de prix que le diacre a inventée et fait financer par Lady Bromley pour cette expédition. Comme simple corde de guidage, en remontant le glacier à l'allée, nous nous sommes servis de la classique corde alpine en coton de 9,5 mm, que j'appelle la corde Mallory à Erwin, puisque c'est ce qu'ils utilisaient la dernière fois qu'ils ont été vus sur cette montagne. Mais comme corde fixe verticale, ou pour s'encorder dans des situations périlleuses, le diacre a insisté pour que l'on prenne son nouveau mélange de coton, manille et chanvre. Plus lourde et plus épaisse, avec ses 15,8 mm de diamètre, elle est certes plus pénible à transporter et plus difficile à nouer vite, toutefois elle a d'autres avantages. Grâce à ses contacts à l'Alpine Club, le diacre a consulté un établissement de Birmingham spécialisé dans le test des cordes commerciales. Même neuve, la corde de coton standard de 9,5 mm rompt sous la pression de 220 kg. Cela paraît beaucoup, et pourtant, quand un homme de taille normale, en tête de cordée, tombe en chute libre avec, disons, un relais de 9 mètres, sa masse et sa vitesse rendent presque inéluctable la rupture de la corde après 18 mètres de chute. L'utilisation de ce foutu machin tient plus de la pensée magique que de la précaution de sécurité, a dit le diacre. Comme il nous l'a expliqué l'hiver dernier quand il nous a fait tester son nouveau modèle au Pays de Galles, cette faible résistance à la tension expliquait pourquoi tant d'alpinistes, aussi bien dans l'Himalaya que dans les Alpes, perdaient la vie en redescendant des pentes abruptes. D'après les tests effectués, sa nouvelle corde en fibre mélangée pouvait supporter une pression de près de 500 kg avant de casser. Pas encore suffisant d'après lui, il imaginait déjà ce qui deviendrait la corde du futur en nylon, possédant une charge de rupture de 2000 kg, sans savoir comment la fabriquer avec les matériaux de 1924-1925. Mais bien mieux que la corde à linge, selon son expression, avec laquelle Mallory et Erwin étaient encordés le jour de leur disparition. Même avec la nouvelle corde améliorée, JC et moi avons dû réfléchir à l'ordre dans lequel il nous fallait descendre la montagne. Pour une raison évidente, Jean-Claude devait prendre la tête de la cordée. Mais ensuite, qui? À cause des gelures, Hank Shiri et Lakpa Yishay tenaient à peine sur leurs pieds enflés. Aucun des deux n'a réussi à nouer les lacets de ses bottes et JC et moi avons dû leur attacher leurs crampons. Il n'était pas en état d'assurer JC si celui-ci devait soudain disparaître dans une crevasse. Et ni moi, ni la nouvelle corde miracle du diacre n'auraient pu supporter le poids de 3 hommes tombant en chute libre, quelle que soit la vitesse à laquelle j'aurais planté mon long piolet dans la neige du glacier. Nous avons donc fait un compromis. JC est en tête, suivi de Baburita, le plus en forme de nos Sherpas en cette journée épouvantable, puis moi, dans le maigre espoir que je puisse assurer 2 hommes, puis Hang et Lakpa, qui avancent en titubant et en se tenant l'un l'autre, et enfin Norbu Shedi avec ses joues gelées qui nous sert d'ancrage. En théorie, je devrais être capable d'assurer Hang et Lakpa si l'un ou l'autre, ou les deux, tombaient dans une crevasse derrière moi. Il est clair, du moins pour JC et moi, que si l'on en arrivait au point où Norbu Shedi devrait nous assurer tous les 5, nous serions tous des hommes morts. Suivant JC, nous nous éloignons des décombres du camp 3 pour retourner sur le glacier du Rongbuk Est et sur ses pentes étonnamment raides. Comment, dans ce blizzard constant, JC réussit à se repérer et à éviter les centaines de crevasses qu'il nous a montrées pendant l'ascension sous le soleil il y a 2 jours, je ne le saurai jamais. La plupart de nos baguettes de bambou ont été arrachées ou ensevelies, mais il arrive que JC se baisse et en ressorte une, ce qui nous rassure sur notre itinéraire. Même si je ne crois pas au surnaturel, je reste persuadé, jusqu'à ce jour, que Jean-Claude Clairoux possédait un 6e sens étrange mais bien réel, lui permettant de sentir la présence de crevasses qui auraient été invisibles au soleil avec l'aide des ombres, et l'était d'autant plus dans ce blizzard aveuglant. Plusieurs fois, il lève un bras pour nous arrêter, puis fait demi-tour et revient sur ses pas, dont les empreintes disparaissent presque aussitôt sous la neige, afin de nous faire contourner des crevasses que l'on devine parfois au moment où on les dépasse, mais qui pour la plupart demeurent invisibles à tout autre qu'à JC. Et c'est ainsi qu'après nous être habillés, avoir noué nos lacets, fixé nos crampons et chargé la tente dans différents paquetages avec une lenteur infinie, JC en portant la plus grande partie, nous endurons encore 4 heures laborieuses de descente du glacier, ponctuées d'arrêts et de détours, avant d'arriver à la crevasse traversée par l'échelle. Il ne nous a fallu 1 heure il y a 2 jours pour aller d'ici au camp 3. Jean-Claude lève son bras couvert de neige, s'arrête et nous nous approchons lentement. La travée de 4,50 m formée par les 2 échelles s'est déplacée. « Merde !» lâche Jean-Claude. Il neige encore trop fort pour que l'on puisse voir l'autre côté. Mais au bout de quelques minutes, les rafales se calment juste assez pour qu'on comprenne le problème. Le bord opposé de la crevasse au sud s'est affaissé d'environ 2 mètres. L'une des cordes miracles servant de garde-corps a disparu, et l'autre, celle de gauche, ploie sous le poids de la neige et de la glace, d'une manière qui nous fait penser que le piquet et la broche à glace qui la tiennent côté sud se sont détachés. Nous avions laissé un baudrier attaché par son mousqueton à l'un des garde-corps, pour que les porteurs lourdement chargés, qui devaient nous suivre le mercredi, puissent traverser l'échelle branlante, mais le baudrier est perdu, enseveli sous la neige fraîche ou tombé dans la crevasse. Nous nous désencordons et Babou Rita s'attache aux 3 autres Sherpas, prenant la tête de leur cordée. Je m'attache à Jean-Claude, qui se met à 4 pattes pour s'approcher de l'échelle et du bord de la crevasse. J'emprunte les longs piolets d'Ang et de Norbou, et nous les enfonçons aussi profondément que possible dans la neige et la glace, puis nous y fixons une corde miracle d'environ 9 mètres attachée à JC. Les piolets constitueront le principal relais s'ils devaient chuter. Je fais signe à Ang et Norbou d'approcher et de peser de tout leur poids dessus. Prenant le long piolet de Lakpa Yishei, je le dispose le long du bord de la crevasse, plantant sa lame incurvée dans la glace. Si JC tombe, je veux qu'aussi bien la corde d'ancrage que ma corde d'assurage glisse sur le bois lisse du piolet au lieu de mordre dans le bord de la crevasse. Un peu en retrait, Babou Rita a enfoncé son piolet dans la neige et passé une corde autour, au cas où un trou s'ouvrirait sous Ang, Norbou et Lakpa. C'est lui leur assureur. À mon tour, j'enfonce la pointe d'acier de mon piolet le plus profondément possible, même s'il y a trop de neige poudreuse pour donner un vrai sentiment de sécurité, et je m'écarte du bord en libérant les 9 mètres de corde que j'ai laissés entre JC et moi. Il commence à ramper sur l'échelle à présent très inclinée. Je marque bout pour pouvoir l'assurer en cas de chute. Jean-Claude n'a qu'une main libre pour tenir l'échelle, puisqu'il utilise le piolet marteau qui était fixé à son sac à dos pour retirer la neige des barreaux devant lui et des montants à mesure qu'il progresse. Il a gardé tout son paquetage. Nous n'avons pas eu besoin de nous concerter pour décider que, si l'échelle tient, les Sherpas devraient traverser avec leur charge sur le dos. Ça prendrait trop de temps, dans cet univers glacial balayé par des tourbillons de neige, d'envoyer les paquetages à la main. Ce sera donc tout ou rien. Au milieu du parcours, alors que JC a les pieds et les fesses plus hauts que la tête sur l'échelle inclinée, l'extrémité de celle-ci s'affaisse d'environ 15 cm supplémentaires dans sa niche de neige de l'autre côté. Je marque bout encore davantage dans l'attente de l'impact de sa chute. Elle ne se produit pas. En face, le nouveau rebord de neige et de glace tient le coup, jusqu'à ce que Jean-Claude y arrive en rampant. Étonnamment, il reste sur l'échelle, le temps de planter quelques broches à glace dans la paroi bleue de la petite niche, prend deux longueurs précoupées de 1,80 m de corde miracle qu'il fixe aux broches et noue au debout de l'échelle. Une faible protection, mais c'est déjà un début. Je ne vois presque plus Jean-Claude à travers l'épais rideau de neige, mais je l'entends haleter pendant qu'il prend son piolet long accroché à son sac et le plante à 10 mètres de la crevasse. Il attache ensuite de plus grandes longueurs de corde à cette nouvelle ancre et, incroyable, rampe de nouveau sur l'échelle pour aller les fixer au milieu. Je lui lance deux nouvelles longueurs de corde que nous avons attachées à nos piolets et qu'il vient nouer à notre extrémité de l'échelle. Puis il repart laborieusement, en marche arrière, sur l'échelle inclinée. Debout dans la niche, il utilise son piolet marteau et ses mains gantées pour balayer la neige friable. Les porteurs auront ainsi plus de facilité à escalader ces 2,50 m de parois verticales pour sortir de la crevasse. Puis il me lance sa propre corde d'assurage et le dernier rouleau de corde miracle, et va accrocher l'autre extrémité à son piolet avant de se mettre en position de relais. Le simple fait d'avoir regardé mon ami se dépenser ainsi à plus de 6000 mètres d'altitude m'a coupé le souffle. « Très bien, » dis-je avec toute l'autorité dont je suis capable. « L'ACPA en premier. Babou, tu continues d'assurer les deux autres pendant que j'attache ma corde de relais et celle du Saïb Clérou à l'ACPA. Demande-leur à tous de s'approcher de l'échelle à quatre pattes, en gardant les paquetages sur le dos, s'il vous plaît, et d'avancer doucement. Dis-leur qu'il n'y a aucun danger. Même si l'échelle cédait, ce qui n'arrivera pas avec ces nouvelles fixations, le Saïb Clérou et moi-même vous assurerons. Très bien. L'ACPA, à toi de jouer.
L'espace d'un instant, le Sherpa terrifié refuse d'avancer et je suis sûr qu'on va se retrouver avec une mutinerie sur les bras. Mais après beaucoup de gesticulations de ma part et de cris en népalais de la part de Baburita, l'ACPA s'avance en rampant centimètre par centimètre, s'engage sur l'échelle et tente de garder les genoux posés sur les montants glacés en posant une main gantée après l'autre. C'est interminable, mais il finit par arriver de l'autre côté où Jean-Claude le détache. Le Sherpa rit comme un enfant. Encore quatre, me dis-je avec lassitude. Mais je m'oblige à sourire et fais signe à Angshiri de se mettre à quatre pattes et de s'approcher pour que je puisse nouer les deux cordes autour de lui. Environ un siècle plus tard, quand les quatre Sherpas ont traversé et se sont réencordés de l'autre côté, je tire de toutes mes forces sur les trois piolets d'ancrage pour les dégager et les lance à JC. Il sera seul à m'assurer, mais la deuxième corde qu'il m'envoie sera reliée à son piolet qui sert toujours d'ancrage. Je noue une longueur de corde miracle autour de moi et fais un prussique formant une sangle pour mon pied au cas où l'échelle céderait sous moi. C'est beaucoup mieux pour un grimpeur tombé dans une crevasse de se hisser par ses propres forces, le prussique fournissant comme un petit étrier, plutôt que de se faire remonter par la force brute de celui ou de ceux qui se trouvent en haut. Je commets l'erreur de regarder les profondeurs bleu-noir de la crevasse alors que j'avance péniblement. L'abîme sous l'échelle inclinée, givrée et branlante, me paraît littéralement sans fond. L'inclinaison semble encore plus aiguë quand on se trouve sur l'échelle. Je sens le sang me monter à la tête. Enfin, je suis de l'autre côté et des bras impatients m'aident à me remettre debout. Me retournant vers le pont de fortune dans sa toile d'araignée de corde, je me mets à rire, comme l'ACPA Yishei un peu plus tôt, avec une sensation de bonheur pur du simple fait d'être en vie. L'après-midi est déjà bien avancé et il nous reste un long chemin à parcourir. Jean-Claude reprend la tête de notre caravane, je retrouve ma troisième place dans la cordée, derrière Baburita, et nous reprenons notre lente descente sur le glacier, dans la tempête de neige. Je me rends compte qu'Angshiri et l'ACPA avancent en chancelant, privés de sensations dans leurs pieds gelés. Ils pourraient aussi bien marcher sur des bouts de bois. Je ne comprendrai jamais comment JC a réussi à nous maintenir sur la bonne voie. Alors qu'un peu plus bas, nous cheminons une fois encore entre les hauts et oppressants pinacles de glace, il y a moins de neige poudreuse et nous voyons apparaître davantage de baguettes de bambou, telles des traits d'encre sur une feuille vierge. Il n'y a pas de séparation entre la neige et le ciel, et les séracs géants apparaissent soudain devant nous et autour de nous comme des fantômes enveloppés de blanc. Enfin, nous atteignons le dernier obstacle entre nous et le camp 2, l'eau fraîche à boire, la soupe chaude et la nourriture. La dernière crevasse, à 800 mètres au-dessus du camp, que traverse le large et épais pont de glace et les cordes que nous avons fixées comme garde-corps pour nous fournir un sentiment de sécurité. Les deux cordes sont en place, bien qu'elles ploient sous le poids de la glace qui les couvre. Le pont de neige a disparu dans la crevasse. Jean-Claude et moi comparons nos montres. Il est plus de 16h30. Dans 45 minutes tout au plus, le glacier se trouvera dans l'ombre des arêtes de l'Everest et la nuit commencera à tomber. La neige et la température continuent de chuter. À l'aller, nous avons parcouru 800 mètres à gauche et à droite avant de décider que le pont de neige était le meilleur moyen de traverser. Il n'y aura plus de baguettes de bambou pour nous guider entre les crevasses couvertes de neige si nous essayons de trouver un autre point de passage. Nous allons devoir attendre le lendemain et, si Dieu est avec nous, une meilleure météo. Nous échangeons un regard tous les deux. Puis Jean-Claude dit à Babou et Norbou « Nous laissons nos charges ici, à 10 mètres de la crevasse. Et nous montons la tente là. » Il enfonce son piolet dans la neige. Les porteurs semblent abasourdis à l'idée de passer une nouvelle nuit sur le glacier. « Allez, vite, avant que la nuit tombe et que le vent se lève de nouveau !» J.C. frappe si fort dans ses mains gantées que l'écho nous revient comme un coup de feu. Le bruit réveille les Sherpas. Et nous nous mettons tant bien que mal au travail, étalant les deux bâches de sol, dressant la tente, plantant autant de piquets et de broches que nous le pouvons. Je me rends compte que si les vents se déchaînent comme les deux dernières nuits, il y a peu de chances que notre tente y survive ou que nous y survivions. Je nous imagine serrés tous les six dans la grande tente, tentant de planter les doigts dans les bâches de sol pour nous retenir, alors que l'ouragan balayera notre abri de toile et nous avec, comme un palais de hockey sur la glace, pour nous précipiter dans une crevasse sans fond. Une heure plus tard, nous sommes sous la tente, recroquevillés les uns contre les autres pour nous tenir chaud. Nous n'essayons même pas de manger quoi que ce soit. Notre soif est si intense que je n'ai pas de mots pour la décrire. Nous sommes, tous les six, la proie de ces terribles quintes de toux de haute altitude, que J.C. décrit comme un hurlement de chacal. La deuxième fois qu'il emploie l'expression, je lui demande s'il a déjà entendu un chacal hurler. « Pendant toute la nuit dernière !» me répond-il. Jean-Claude et moi avons donné nos sacs de couchage à Hang et Lakpa et dormons dans nos vêtements en duvet et quelques fines couvertures. Mes bottes, rangées dans un sac imperméable, me servent d'oreiller. Malgré notre épuisement, J.C. et moi avons trop froid et sommes trop inquiets pour réussir à dormir. Nous essayons de nous pelotonner l'un contre l'autre, mais sentir l'autre trembler et claquer des dents n'arrange rien. Nos corps ont peut-être tout simplement cessé de produire de la chaleur. Ça voudrait dire que nous sommes morts tous les deux, Jake. Je n'aime pas le ton de ma propre voix. Elle me donne l'impression que j'ai cessé de lutter.
« Demain matin, »
murmure Jean-Claude alors qu'il fait à présent complètement noir et que les vents forcissent.
« Je traverserai en m'accrochant à l'une des cordes fixes. » Et je descendrai au camp 2 et je ramènerai tout le monde avec des échelles. Des vivres et des boissons chaudes. Bonne idée,
dis-je entre mes claquements de dents. Puis,
ou alors je peux essayer ce soir, en prenant la torche.
Non, chuchote mon ami.
Je ne crois pas que la corde supportera votre poids. Je suis plus léger, trop fatigué ce soir. Demain matin.
Nous fermons les yeux et faisons semblant de dormir. Le vent a redoublé de violence et la toile de tente bat de plus belle avec des détonations de mitraillettes. J'imagine sentir notre abri glisser vers le sud et la crevasse, mais trop épuisé et déshydraté pour tenter de réagir, je reste couché là en boule à côté des autres. La respiration lente de J.C. a la mauvaise habitude de s'arrêter pendant ce qui paraît des minutes entières, jusqu'à ce que je le secoue pour l'entendre inspirer à nouveau. Ce manège se poursuit jusqu'au cœur de la nuit. Ça me donne une bonne raison de rester éveillé dans l'obscurité froide. Chaque fois que je le ranime ainsi, il murmure
« Merci, Jake ».
Puis reprend cette respiration irrégulière et à demi-consciente. J'ai l'impression d'une veillée auprès d'un agonisant. Soudain, je me redresse dans le noir. Quelque chose de terrible a dû se produire.
J'entends la respiration haletante de JC et des autres, dont la mienne. Mais il manque quelque chose d'essentiel dans cette obscurité presque absolue. Le vent s'est arrêté. Le bruit a disparu pour la première fois en plus de 48 heures. Jean-Claude est assis à côté de moi et nous nous secouons l'un l'autre par les épaules, en une sorte de célébration muette ou par simple hystérie. Je tâtonne autour de moi à la recherche de la torche et j'éclaire ma montre. 3h20 du matin.
Je devrais essayer d'y aller maintenant, dit JC de sa voix rauque. Je n'aurai plus la force de traverser après le lever du soleil.
Avant que je puisse répondre, un grattement et un froissement se font entendre à la porte de la tente, que nous ne fermons pas hermétiquement par crainte de l'asphyxie. Et comme dans une hallucination, je vois des lumières vives braquées sur nous. Les joues gelées de Nord Bouchédi scintillent en noir et blanc dans le soudain éclat. Une forme immense et puissante tente de pénétrer dans la tente. C'est alors que les têtes du diacre et de Reggie apparaissent. Je distingue des torches dans leurs mains gantées et d'autres lumières derrière, des lanternes. Les deux nouveaux venus arborent aussi des lampes frontales de Reggie qui illuminent l'intérieur sordide et couvert de givre de notre tente et nos visages hagards.
« Comment ?» réussis-je à dire.
Le diacre sourit. Nous étions prêts à nous mettre en route dès que le blizzard serait retombé. Je dois avouer que ces lampes de mineur marchent assez bien.
« Mieux qu'assez bien !» le coupe Reggie. « Mais comment avez-vous traversé ?»
commence Jean-Claude. « Le glacier n'est pas resté inactif, » répond le diacre. « À environ 600 mètres à l'ouest, les deux côtés se sont effondrés et la neige a comblé le fond. Environ 45 mètres à descendre et à remonter, mais une simple rampe, pas d'escalade difficile. Nous avons laissé des cordes fixes. Faites de la place, messieurs, nous entrons. » En plus du diacre et de Reggie, Passang entre également dans notre tente surpeuplée et sort une trousse médicale de son sac à dos. Dehors, les Sherpas s'accroupissent à l'entrée, leurs lampes frontales allumées, et trois lanternes projettent une large lumière sur leurs visages souriants, alors qu'ils nous passent des thermos de bovril, de soupe et de thé chaud. Une autre grande bouteille ne contient que de l'eau et nous buvons avidement chacun notre tour. Le docteur Passang examine déjà le visage de Norbu, puis les pieds d'Ang et de Lakpa.
Tejbir et Nyema Tsering devront porter ces deux-là sur leur dos, dit-il.
Il commence à frictionner les pieds noircis des deux Sherpas avec de l'huile de baleine odorante.
On repart tout de suite,
demandai-je. Je ne suis pas sûr de réussir à tenir debout, même si déjà l'eau a ranimé en moi une énergie qui avait été proche de s'éteindre. Le plus tôt sera le mieux, confirme le diacre. Un Sherpa aidera chacun de vous. Nous avons aussi des lampes frontales pour tout le monde. Même en faisant le détour pour traverser la crevasse par la nouvelle voie, nous serons au camp 2 en 45 minutes, voire moins. Nous avons balisé le chemin avec des baguettes.
« Venez, Jake, je vais vous aider »,
dit Reggie en plaçant mon bras sur son épaule. Elle soulève mes 90 kilos comme si j'étais un enfant et me porte presque dans l'obscurité de la nuit. Les étoiles sont très brillantes. Il n'y a pas un nuage et aucune trace de neige, à l'exception de la traînée de poudreuse que je vois s'élancer des sommets et des arêtes de l'Everest, à 5 kilomètres de distance et 3000 mètres au-dessus de nous. Jean-Claude lève, lui aussi, les yeux vers l'Everest et le champ d'étoiles scintillantes.
« Nous reviendrons, » dit-il à la montagne.